pour rester, c'est-à-dire composer avec l'autre, la part maudite de soi. Clément Cogitor est ce soir notre invité à l'occasion de son nouveau long métrage présenté au Festival de Cannes, intitulé « Goutte d'or ». Mais comme chaque soir, nous commençons en musique et ce sera PJ Harvey, « Down by the Water ».
I lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me, and now I moan, and now I holler. She'll never know just what I.
J'aimerais bien que vous me parliez de votre grand-père, celui qui a fait de la résistance dans le Vercors.
Mon grand-père, il s'appelait Antoine Cogitor. Il est mort ce début d'année et il était dans les corps francs du Vercors et pendant la Seconde Guerre mondiale. Très jeune, il avait 17 ans. Et mon frère Romain a fait un film qui s'appelle Nos résistances à partir de ses souvenirs de ces années-là. Et c'était quelqu'un qui était très important pour moi. Et qui nous a quitté il y a peu de temps et quelqu'un à qui je pense beaucoup.
Et est-ce que l'atmosphère de la guerre et les souvenirs qu'il vous a transmis vous ont influencé pour faire votre premier film?
Je pense que ça a beaucoup plus nourri et inspiré mon frère qui s'est vraiment saisi de cette partie-là de son histoire et qui du coup est devenu aussi un peu l'histoire familiale parce que c'est des histoires qui partageaient beaucoup. En tout cas, quand on lui posait la question, il répondait, il développait quoi. Mais c'est sûr que ça nourrit mon imaginaire d'enfant et d'adolescent.
On peut dire que dans tout votre travail, Clément Cogitor, que ça soit dans les arts plastiques, la performance ou les films, puisque vous faites les trois, il y a un sentiment de la nature très profond. Et j'ai cru comprendre que vous aviez passé votre enfance au milieu de la nature.
Oui, j'ai eu la chance de grandir dans une très belle vallée des Vosges qui s'appelle le Val d'Orbais et oui ça m'a beaucoup nourri et oui donc les jeux d'enfants dans la forêt c'est quelque chose qui fait partie de ouais qui fait partie de moi ouais.
À partir de quel moment vous avez commencé à dessiner? Est-ce que vous avez dessiné et peint justement cette atmosphère de la forêt?
Oui, alors j'ai commencé par la peinture. Au début, je voulais être quand j'étais adolescent, je voulais être peintre. J'ai fait des études d'art et puis très vite, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment l'exécution du tableau ou le geste manuel qui m'intéressait parce qu'en plus, je suis assez maladroit de mes mains. C'est pas quelque chose dans lequel je me retrouvais vraiment, mais par contre, je me retrouvais dans la mise en scène de l'image, la mise en scène du tableau. C'est comme ça que je suis passé à la vidéo d'art et petit à petit vers le cinéma et la fiction et le documentaire.
Tout votre travail tourne autour de représenter quelque chose, peut-être aussi de l'irreprésentable. Qu'est-ce que le représenter? Qu'est-ce qui peut être représenté? Et qu'est-ce qui reste, selon vous, irreprésentable?
Ah, c'est très beau de le raconter comme ça. Alors, il y a une chose qui m'obsède, c'est que faire des films, c'est faire des choses que, à partir de ce qui se voit et ce qui s'entend, en fait, c'est vraiment quelque chose. C'est extrêmement physique. On fait rarement des films avec des idées, quoi. Les idées doivent s'incarner, elles doivent trouver de la matière pour s'accrocher, quoi. Mais les idées pures sont pas efficientes dans le cinéma. Donc on est toujours confronté à du visible, à du sensible, à la voix humaine, au regard, au vent, à la lumière, au mouvement d'un animal, au feuillage d'un arbre. Ou au passage de voiture. Enfin, on est toujours dans cette réalité sensible. Et la gageure du cinéma, c'est justement de saisir quelque chose qui semble échapper à cette réalité-là, tout en n'étant que convoqué ou fabriqué à partir d'une réalité physique. C'est ce dialogue entre le visible et l'invisible que le cinéma, en morcellant, disons, le visible, saisit une sorte d'invisibilité quelque part.
Alors vous aviez fait plusieurs films qui tentaient déjà de percer cet invisible. Et ce nouveau film qui est présenté donc à Cannes, Goutte d'or, tourne aussi autour de ce qui est mystérieux, ce qui n'est jamais dit, ce qui n'est jamais énoncé, ce qui est peut-être vrai, avec une sorte de principe d'incertitude. Pourquoi ?
Parce que j'ai la sensation qu'il y a toujours quelque chose qui manque. Dans l'expérience humaine et dans l'expérience artistique, et c'est sur ça qu'on travaille tout le temps. On travaille toujours sur un manque, sur quelque chose qui est pas dit, quelque chose qui est pas vu, quelque chose qui est ellipsé, quelque chose qui est hors champ, et c'est dans ce trouble-là, entre ce qui est montré et ce qui ne l'est pas, ce qui est raconté et ce qui n'est pas raconté. D'un point de vue dramatique, des mystères qui sont créés dans le récit, certains sont résolus ou certains ont une réponse et d'autres non. Et du coup, il y a une sorte de tension entre tous ces éléments, disons, positifs et négatifs, des choses qu'on retranche comme ça, et au personnage, à soi-même et au spectateur. Et c'est dans cet écart-là et dans cette tension-là que j'aime travailler. Je veux dire que le film va travailler sur, enfin, ou l'œuvre, ou la mise en scène va travailler sur des manques, que ce soit les miens ou ceux du personnage, mais qui vont devenir aussi ceux du spectateur, et on va travailler autour de ces manques.
Mais justement, dans les précédents films, que ce soit Ni le ciel ni la terre, ou encore plus dans Braguignol, il y a des poches d'incompréhension du monde. Il y a des gens qui vivent, que vous regardez vivre, avec votre caméra subjective, et en même temps, il y a quelque chose que nous, spectateurs, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas ce qu'ils vivent, mais vous nous donnez en tant que cinéaste, et ça c'est vraiment très rare dans le cinéma actuel, l'impression qu'eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'ils vivent.
Oui, mais ça j'en suis persuadé qu'une grande partie de ce que nous sommes et de nos expériences nous échappe, ou en tout cas on n'en saisit pas le sens, ou on en saisit toujours le sens en retard, ou de manière diffuse ou confuse, et que c'est ça qui fait la beauté d'une expérience humaine, du récit de l'expérience humaine, et que je pense qu'on est fondamentalement, nous tous, chacun des énigmes les uns pour les autres et des énigmes pour nous-mêmes. Et que du coup, un récit ou accompagner un personnage est pas tant la résolution de cette énigme, mais l'énonciation. Essayer de l'énoncer de manière la plus claire possible. Il y a toujours des inconnus dans cette équation. De ces personnages que nous sommes, il y a toujours ces inconnus là, mais on va pas chercher à résoudre ou à les à résoudre ces inconnus, mais à les expliquer, à les énoncer clairement. C'est ce que j'essaie de faire, je crois.
Donc le cinéma est là pour tenter de percer un mystère ou au contraire pour le décupler, ce mystère?
Je pense pour essayer de l'énoncer, tout simplement. Que ce soit que ce qui est clair doit être encore plus clair, et ce qui est absent ou ce qui est mystérieux doit l'être encore plus. Je crois pas, moi, à chercher des réponses.
Enfin, c'est pas du cinéma vérité que vous faites, pas du tout.
Ben, en tout cas, pas dans la manière dont ça se déploie ou dans la manière dont je construis la dramaturgie. Ensuite, j'aime énormément que la manière dont la caméra se positionne dans la rue, dans la montagne, dans n'importe quel paysage, elle soit là, elle soit vraiment... j'utilise par exemple très très peu de machinerie, elle est toujours sur l'épaule de mon chef opérateur Sylvain Verdet. Il y a quelque chose, on est toujours à hauteur des personnages dans une logique très documentaire, en essayant de travailler au maximum avec la lumière naturelle. Donc ça a l'apparence d'un, disons, de ce cinéma direct ou de ce cinéma vérité, mais pour essayer de chercher une espèce d'hallucination dans ce qui s'apparente à être du naturalisme, quoi. De se dire au bout d'un moment qu'on croit énormément à la réalité de ce qui est en train de se passer, et puis petit à petit de bousculer ce pacte de croyance qu'on a mis en place, et que le spectateur ne sache plus vraiment si ce qu'il voit une hallucination du personnage ou si c'est quelque chose qui a vraiment eu lieu. Et ça m'intéresse de le traiter dans une logique ou disons des codes de cinéma direct.
Souvent dans vos films, Clément Cogitor, on a l'impression d'accéder à quelque chose qu'on ne connaissait pas, même si on croyait le savoir. Est-ce que la caméra est pour vous une sorte de transmetteuse de vérité de l'au-delà?
Alors je dirais pas ça comme ça, mais je pense que la caméra, elle saisit des choses que l'acteur n'a toujours pas, ou la personne qui est en face de la caméra n'a pas toujours conscience de donner, et que moi j'ai pas toujours conscience de saisir. Et que c'est au montage où tout d'un coup des choses apparaissent différemment. Tout d'un coup il y a une manière de réagir du corps, du regard, de la voix, quelque chose qui est pas conscient, qui est pas maîtrisé à ce moment-là, qui est juste
Un
événement, ouais, le trouble d'un événement qui se produit, et c'est ça qui est le plus beau, c'est-à-dire que tout d'un coup on travaille avec un matériau qui a surgi, quoi, et qui s'intègre dans une scène qui a été écrite, qui a été répétée, mais...
Vous voulez dire que quand vous filmez, Clément Cogitor, vous filmez des choses que vous voyez, par définition, mais qu'au montage, des choses que vous avez filmées apparaissent différemment de ce que vous vouliez, en quelque sorte.
Oui, ouais, c'est ça qui est beau, c'est que de se dire... Il y a toujours une logique forcément de maîtrise de ce qu'on est en train de faire. Il faut que la scène raconte ce qu'elle doit raconter. Elle doit amener le spectateur à un endroit et le personnage. Mais à l'intérieur de ça, il y a une marge de manœuvre assez grande, et où tout d'un coup, on pense avoir saisi quelque chose à cet endroit-là, dans cette prise-là, dans cet axe-là de la caméra. Et puis tout d'un coup, 6 mois plus tard en montage, les choses apparaissent différemment. Et tout d'un coup, on voit quelque chose qu'on n'avait pas vu avant et qui va réorienter l'énergie ou la trajectoire de la scène différemment. Et qui sont des logiques assez documentaires, en fait. Où, quand en documentaire, les choses se produisent, on ne les fait pas reprendre par les personnages jamais, ce serait absurde. Mais, et du coup, c'est vraiment au montage qu'on structure ces événements-là. En fiction, ils sont beaucoup plus... structuré avant, mais il y a quand même un espace où tout d'un coup les choses peuvent se produire différemment, et même dans une pure intuition de, par exemple, je décide très rarement à l'avance où est-ce que sera la caméra. J'essaie de le faire le plus tard possible.
Et la caméra, elle doit être la plus neutre possible, elle doit pouvoir être quasiment invisible de ce que vous filmez.
Ouais, j'aime bien que disons qu'on n'est pas... en tout cas qu'elle soit jamais dans une sorte de position un peu de surplomb, ou qu'elle soit jamais démonstrative en tout cas, et qu'elle soit presque comme si le chef opérateur était un des membres du groupe, si je filme un groupe, que ce soit un personnage en plus dont on partage le regard, et qui du coup nous fait oublier cette présence-là, et du coup ça veut dire aussi une profonde entente et proximité entre les acteurs et l'opérateur, la caméra.
Vous avez tout à l'heure parlé, Clément Cogitor, de pacte de croyance, et je pense que ce terme définit bien votre type de travail. Avec vous, on est embarqué dans une autre réalité qui paraît très lointaine et inaccessible. Je vous propose d'écouter un court extrait d'un de vos films en 2017 qui vous a fait reconnaître partout et primer beaucoup. Il s'intitule « Braguinho ».
по лесу, когда идешь, вот именно. Это видишь эту красоту. И даже не верят. Идешь, вроде так хорошо, красиво. Но это даже может и стягнуть. Даже не верится, этого может не быть.
Nous venons d'entendre un court extrait de ce film puissant, à la fois esthétiquement, mais aussi qui fait travailler notre imaginaire, qui se déroule dans un hors-temps, dans un hors-sol aussi. Et votre travail a à voir avec l'anthropologie, je crois, depuis pas mal de temps, même si vous êtes très jeune. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe à Bragignaux et qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Qu'est-ce que c'est que ces familles et comment êtes-vous parvenu à capturer la vie de ces familles ?
Bragignaux, c'est un film que j'ai tourné en 2016, dans un endroit très, très inaccessible, enfin, qu'on peut rejoindre uniquement au bout d'un moment en hélicoptère, c'est en Sibérie.
On en voit hein, d'ailleurs d'hélicoptères dans votre film.
On en voit plusieurs, ouais. Et donc il faut prendre plusieurs avions depuis Moscou, ensuite remonter le fleuve Yenisaï en bateau. Ensuite traverser la taïga en voiture, et puis ensuite on embarque dans un hélicoptère pour les derniers 800 ou 1000 kilomètres. Et c'est un endroit vraiment perdu dans la taïga où deux familles vivent en autarcie. Ils vivent de chasse, de pêche, de culture, un tout petit peu d'élevage. Puis il y a beaucoup d'enfants, ils sont plusieurs générations. Il y a trois générations, et l'homme qui a fondé cet endroit s'appelle Sacha Braguine, et il est arrivé là dans les années 70-75. Et il a construit à sa manière, disons, un monde à côté du monde. Quoi. Voilà. Et il y avait l'idée qu'une deuxième famille le rejoigne et qui partage ça. Et ça a échoué. C'est-à-dire que les deux familles se sont installées et ne s'entendent pas du tout. Et donc, du coup, il y a une sorte de conflit larvé entre ces deux familles au bout du monde, deux voisins. Ce qui s'apparente à la fois un conflit de voisinage et en même temps un conflit
de voisinage au bout du monde.
Au bout du monde. Et en même temps, il y a presque un conflit.
Sans autres voisins qu'eux-mêmes, pour pouvoir régler leurs différends.
Exactement. Et il y a quelque chose de presque biblique entre Caïn et Abel, parce que les deux familles sont liées par le sang et du coup, petit à petit, sont venus à se détester. Et c'est sur une sorte de situation assez étrange qui est entre l'utopie et l'échec de cette utopie, sur l'impossibilité de partager ou de protéger un paradis. Voilà, puisque c'était un peu le projet de Sacha, de construire un lieu préservé de la violence, de la corruption, de la misère. Parce que cet endroit-là, cette région-là est assez, assez dévastée.
Et après le paradis, vous avez voulu essayer de décrire l'enfer avec votre dernier film, présenté en ce moment même à Cannes, Goutte d'or. Est-ce qu'il y avait une volonté de faire une opposition frontale entre deux univers ?
Ah, je crois pas qu'il y ait quelque chose d'infernal dans Goutte d'or. On est sur un territoire avec et des tensions et des conflits, mais comme dans Bragignaux d'une certaine manière. Je crois que Bragignaux est un film plus sombre que Goutte d'or, même si Goutte d'or en donne les apparences d'être un film sombre. Mais c'est un terrain. Donc un film qui est tourné, disons, à Paris, entre la rue de la Goutte d'Or et la plaine Saint-Denis. Un terrain, disons, et politiquement et socialement empreint de conflits et de tensions. Et le personnage principal qui est joué par Karim Leclou joue un médium, disons un faux médium, qui a une sorte de cabinet de consultation et qui a monté une petite économie de la consolation et de la voix des morts. Et qui sait exactement comment manipuler et dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre et c'est comment les consoler, il a beaucoup de succès, quoi. Beaucoup de gens viennent le voir. Et tout ça se joue dans ce terrain qui est plein de risques et de tensions. Et puis à un moment donné, il va avoir une vraie vision, c'est-à-dire qu'il va tout d'un coup être détenteur d'informations de manière irrationnelle, et ça va bousculer sa petite économie et tout le petit système qui s'est construit. Voilà, l'entraînant dans une sorte de nuit dans Paris où à la fois pas mal de choses vont s'écrouler et puis d'autres vont se reconstruire ou se révéler autrement.
En apparence, on pourrait y voir un documentaire sur le fonctionnement de ce quartier de Paris, intitulé Goutte d'or. En fait, je crois, mais peut-être je me trompe, Clément Cogitor, moi j'y ai vu une continuité complète avec le début de votre travail depuis maintenant 8-10 ans, c'est-à-dire essayer de comprendre des territoires clos sur eux-mêmes, avec des rites de fonctionnement, avec des codes d'accès extrêmement compliqués qui permettent justement d'entretenir le huis clos. À quoi sert la caméra dans ce genre de démarche? Est-ce que vous avez été, comme pour Draguigno, obligé de traverser des tas de sas qui sont impossibles à quiconque, y compris à vous? Comment avez-vous réussi à rentrer au cœur du mystère?
Ben, ce qui m'intéressait, c'était de raconter ce monde-là qui est en fait en bas de chez moi, ou enfin en tout cas où j'ai vécu dans ce quartier-là, et je m'en suis jamais vraiment éloigné. C'est un quartier auquel je suis extrêmement attaché. De faire un film où j'ai pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète comme pour Draguigno, mais à chaque fois le processus est le même, c'est-à-dire que même ce qu'on croit connaître, on croit savoir, n'est jamais vraiment les choses sont jamais vraiment telles qu'elles sont. Et j'aime beaucoup le principe de poser d'arriver dans un endroit en posant la caméra et de se mettre à parler avec tous les gens qui vivent là et de se dire je voudrais raconter cette histoire-là, cet endroit-là. Et là on commence à négocier, à parler, à expliquer, à se convaincre. Parfois on s'engueule, ensuite on se réconcilie. Mais en tout cas tout ce travail-là.
Vous aviez déjà des amis sur le terrain, si j'ose dire.
Oui, et puis.
Et des informateurs, comme on dit en anthropologie.
Oui, et puis aussi, c'est beaucoup plus simple parce que c'est aussi, il y a des gens que je connais là-bas, et moi j'ai vécu là-bas, et j'en suis toujours propre, donc on est.
Vous voyez, vous dites là-bas, Clément, comme si c'était loin de chez nous.
Parce qu'on est au Festival de Cannes, là maintenant, mais si on était au studio à Paris, ce serait la porte à côté. Mais,
c'est pas tout à fait la porte à côté. Le cinéma permet de comprendre que c'est pas tout à fait la porte à côté. C'est un territoire beaucoup plus solidaire qu'il n'y paraît. C'est un territoire que vous nous faites découvrir avec une sorte de fraternité et de force et de puissance. Alors que c'est un territoire qui est décrié, y compris dans le monde du cinéma, par les films qui ont été consacrés, par les faits divers, etc. Vous montrez le contraire.
Oui, ce que j'aime, c'est montrer la complexité, essayer de révéler la complexité des choses, quoi. Et je pense que ça tient. Enfin, que je sois avec ma caméra au fin fond de la taïga ou rue de la Goutte d'Or, ou si je sais pas si un jour je fais un film dans un hôpital ou dans la sphère, je sais pas, dans les bureaux d'une grande banque, c'est de se dire voilà l'apparence que se donnent les choses, l'impression, le langage qu'utilisent les hommes et les femmes pour nommer certaines choses, la manière dont leur corps se comporte dans l'espace. Qu'est-ce que tout ça révèle d'eux-mêmes et à quel point les choses nous paraissent à la fois radicalement différentes de ce qu'on s'attendait ou de ce que nous sommes. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a l'impression que les choses nous sont vraiment étrangères. Et puis petit à petit, en tissant un lien, en restant plus longtemps, quand la parole commence à se déployer, que le réel rentre, tout d'un coup, les choses nous paraissent étrangement semblables. Voilà. Et c'est toujours une sorte de mouvement de balancier assez, assez beau entre, l'étranger et le semblable, un peu partout. Enfin, à chaque fois que la caméra se pose, où tout d'un coup, on est surpris que les choses soient aussi incompréhensibles et lointaines. Et l'instant d'après, que tout d'un coup, il y a une très, très grande proximité. On a l'impression de comprendre profondément et d'être extrêmement proche de la personne qu'on est en train de filmer. Et ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps et qui pour moi est un moteur. Voilà. J'ai l'impression que c'est infini, ce mouvement-là. Que dès qu'on a l'impression d'avoir saisi, de s'être rapproché quelque chose de quelqu'un, cette personne-là, l'énigme qu'elle est, hop, tout d'un coup s'éloigne de nouveau et on va se remettre en marche pour essayer de s'en rapprocher. Et c'est une sorte de cycle comme ça, que je sens autant dans la fiction que le documentaire, mais sous des formes très différentes.
Vous brouillez les cartes à l'intérieur de vos films, y compris dans celui-ci, Goutte d'or. Je vous propose d'écouter Robert Bresson. Je crois qu'il a été important au cours de votre construction de cinéaste, Clément Cogitor. Il va parler de l'art du cinématographe. C'est une archive INA du 11 mai 1966.
La grande difficulté, c'est que tout art est abstrait et en même temps suggestif. Il ne faut pas tout montrer. Quand on montre tout, il n'y a pas d'art. L'art va avec la suggestion. La grande difficulté dans ce cinématographe, c'est justement de ne pas montrer. En réalité, le maximum, l'idéal, serait de ne rien montrer du tout. Mais ce n'est pas possible. Il faut donc montrer les choses sous un angle, un seul angle qui évoque tous les autres angles. mais ne pas tout montrer les autres. Il faut peu à peu laisser le spectateur deviner, espérer deviner, et le tenir tout le temps dans une espèce d'attente qui vient de ce que, en effet, comme je vous disais tout à l'heure, la cause est montrée après les faits. Il faut garder le mystère, nous vivons dans le mystère, il faut que ce mystère soit sur l'écran. Il faut toujours que l'effet des choses vienne avant leur cause, comme il arrive dans la vie. La plupart des événements que nous voyons s'accomplir, leur cause est inconnue. Nous voyons leurs effets et c'est plus tard que nous découvrons leur cause.
Nous venons d'entendre les propos de Robert Bresson. Comment vous a-t-il influencé, Clément Cogitor? Quand j'entendais ces mots si profonds sur l'art du cinéma, je me disais que ce que vous faisiez, c'était en continuité totale avec ce qu'il avait écrit dans ce livre génial qui s'intitule « Notes sur le cinématographe ».
Oui, c'est sûr que c'est un maître, c'est un grand maître pour moi, je pense pour beaucoup de cinéastes, mais c'est une règle, ou en tout cas c'est un principe assez extrêmement simple de qu'est-ce qu'on décide de ne pas montrer. Et la caméra, c'est un cadre, et donc elle va découper une portion, un fragment de visible dans une réalité qui est extrêmement vaste, qui est insaisissable, dans un champ qui n'a pas vraiment de limites. Et donc, quand on met en scène, la question, c'est pas tant qu'est-ce qu'on cadre, mais c'est qu'est-ce qu'on ne cadre pas, et qu'est-ce qu'on décide de ne pas montrer.
Donc, où on met la caméra, et qu'est-ce qu'on décide de capter?
Oui, et ce qu'on laisse en dehors du cadre. Et qui...
Ce qu'on laisse en dehors du cadre peut être quand même compréhensible par le spectateur.
Oui, il y a plein de... Ça fait partie du langage du cinéma, d'arriver à suggérer des choses, la présence ou la réalité des choses, sans forcément la montrer, mais dans des registres extrêmement divers, que ce soit dans le cinéma de Bresson ou dans le cinéma de genre, je pense à certains films de Carpenter ou même certains aliens, où en fait les scènes les plus fortes sont celles où on ne voit pas le monstre, et l'irruption du monstre finalement est assez décevante, quand en fait c'est la construction de la présence de la monstruosité, ou son attente qui est la plus qui crée le plus de tension. Donc mais sans aller jusque ce registre-là disons du fantastique ou du genre, de manière extrêmement documentaire aussi, toute l'attention du spectateur se construit sur ce qui lui manque, la part manquante du récit ou de l'image, quoi.
Et cette part manquante, par définition, elle va construire le scénario, elle va construire l'attente du spectateur.
En tout cas, elle va l'obliger
le mettre sous condition.
Elle va l'obliger à reconstruire, à recoller lui-même les morceaux. En tout cas, ça va lui donner une dimension active au spectateur, de pas tout lui donner, mais comme nous-mêmes, quand on est projeté dans une situation où on n'a pas tous les codes, on n'a pas toutes les règles, on ne sait pas exactement comment les choses vont se passer, nos yeux et nos oreilles saisissent des éléments, et à partir de là, on fait une synthèse ou un assemblage qui ensuite va devenir la mémoire de cet événement, mais qui sera jamais la réalité de cet événement, la réalité de cet événement étant impossible à retranscrire, puisqu'elle correspond à une multiplicité de points de vue de tous les gens qui ont été présents à cet événement. Mais depuis notre point de vue, on aura saisi quelques fragments, et on va se construire le récit de cet événement et le sens de cet événement uniquement à partir de ce qu'on en a prélevé, quoi.
Si je vous dis le mot mystère, vous me répondez quoi?
Disons que pour moi, c'est un élément fondamental du fait de raconter des histoires, voilà, de conduire un récit. Dans les histoires que je raconte, les hommes et les femmes qui le parcourent tournent autour d'un mystère en général, qui les tient un élément qui leur résiste, quoi. Et ils passent pas mal de temps à l'interroger, à essayer de le délimiter, et ça crée le cœur du récit.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Clément Cogitor. C'est Sonia Vider Atherton, Kol Nidre, chant juif.
Thank you. mon dieu, enfin le dieu des peintres, qu'il empêche que la catastrophe prenne tout. Qu'est-ce qui se passe si la catastrophe prend tout de telle manière que rien n'en sort? Il y a à ce niveau un danger de peindre. Il y a le danger de peindre, c'est quoi? S'il affronte cette catastrophe dans l'acte de peindre, s'il ne peut pas peindre sans qu'une catastrophe affecte au plus profond son acte. Mais puis en même temps, il faut que la catastrophe soit comme quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Contrôler. Qu'est-ce qui se passe si rien n'en sort? Si ça fait une bouillie? Oui, le tableau rate. Les peintres ne cessent pas de rater. Ils ne cessent pas de jeter leur tableau. Les peintres, c'est étonnant, quoi. Il y a une espèce de destruction, consommation du tableau. Mais est-ce qu'on peut contrôler une catastrophe, encore une fois? La folie de Van Gogh, bon, elle vient d'où? Elle vient de ses rapports avec son père ou elle vient de ses rapports avec sa couleur? J'en sais rien, en tout cas, la couleur, c'est peut-être plus intéressant. Alors, je n'ai pas encore parlé des textes de peintres. Je crois que ce n'est pas analogue que la manière dont un peintre parle de sa peinture, ce n'est pas la même chose que la manière dont un musicien parle de sa musique. Je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre. Je dis qu'il faut attendre un texte de peintre des choses qui ne sont pas du tout, qui sont d'un type très particulier.
Nous venons d'entendre successivement donc, l'interprétation par Sonia Videra-Terton de Kaul Nidre, puis la voix de Gilles Deleuze, qui parlait de peinture et de philosophie. C'est un extrait d'un enseignement qu'il avait fait à l'université le 24 mars 1981. Et si je vous ai proposé d'écouter cette archive, Clément Cogitor, c'est parce que je trouve que tout votre travail, que ce soit dans votre dernier film, Goutte d'or, ou dans les précédents, mais aussi dans toutes les expositions et installations que vous avez faites partout en France. Je me souviens que vous aviez fait une très grande installation au 104 à Paris, très impressionnante. Je me souviens aussi de vidéos et de parcours artistiques proposés à la base sous-marine de Bordeaux. Et je me souviens aussi que vous aviez obtenu le prix Marcel Duchamp il y a quelques années avec une sorte de film installation Evil Eye. Peinture, philosophie, font beau ménage selon vous?
Oui, je connaissais pas du tout cet archive de Gilles Deleuze, c'est très très beau ce qu'il dit. C'est drôle parce que je pense souvent à cette idée quand il parle de jeter ou de brûler les tableaux, parce que j'ai le souvenir d'avoir fait ça, d'avoir arraché la toile des cadres. Ça a l'air d'être un geste extrêmement romantique du peintre qui brûle ses tableaux, mais c'est vrai que je sais pas s'il y a des peintres qui n'ont jamais fait ça, mais c'est d'orage ou d'énervement et en même temps de se remettre
vous
au travail
fait,
derrière.
Vous.
Moi, je l'ai fait, bien sûr, et en fait, il y a quelque chose quand même d'assez, que je trouve assez rassurant là-dedans. C'est-à-dire que le peintre, il a la possibilité, à une fois, une étape du tableau qui a l'impression de l'avoir vraiment raté, qui n'arrivera pas à le reprendre, voire tout jeter, reprendre depuis le début, alors que, en fait, dans le cinéma, c'est impossible. C'est-à-dire que c'est toujours possible de jeter une prise, de jeter une scène, alors pas toute, parce qu'il y a des fois des scènes, on peut pas du tout s'en passer d'un point de vue narratif, mais la sensation que ce qu'on est en train de faire est une catastrophe, moi ça m'est arrivé régulièrement, et ce sentiment du désastre-là, il est assez paralysant, enfin c'est difficile quand on est entouré de tellement de... C'est forcément de l'argent, c'est beaucoup de temps, beaucoup de personnes autour de nous.
Et puis c'est collectif, contrairement à l'acte du peintre.
Exactement, et donc quand on a l'impression que là, tout ça pourrait être... ne pas fonctionner du tout ensemble, être un immense ratage, cette sensation est assez paralysante. Et ça demande beaucoup de lutte pour arriver à dépasser ça et continuer à avancer en se disant, bon, il y aura des choses qui seront peut-être des regrets ou des choses qu'on va devoir se trouver des solutions, mais il faut absolument avancer. Et le film, il doit exister. À un moment donné, il a coûté beaucoup d'argent, il doit trouver son chemin jusqu'à la salle, et ce ne sera pas possible, une fois en montage, de dire finalement, je vais le jeter à la poubelle et puis je vais en écrire un autre. On n'a pas du tout cette possibilité qu'a le peintre dans son atelier de dire, ok, je prends la toile, je la casse en deux à la benne ou au feu, et puis je me remets sur un autre... Soit la même toile, je la reprends depuis le début, soit je peins autre chose. Quoi.
Mais vous avez besoin des deux, et vous continuez les deux.
Non, la peinture, moi je...
Non, mais non. Les installations, ouais. Les performances, les vidéos... Ouais.
Oui, c'est une autre économie, c'est une autre manière de faire où c'est comment dire, le dispositif de production est plus léger. Je suis beaucoup moins tenu par des logiques de scénario, par des financements qui mettent moins de pression, en tout cas, sur la fin. Donc, ça me permet beaucoup plus grande liberté et d'expérimentation. Donc, c'est vrai que je trouve mon équilibre entre ces différentes formes et entre, voilà, la fiction qui se déploie sur 1h30, 1h45 avec un scénario sur lequel on s'appuie énormément et la possibilité de construire un monde par la fiction et d'autres formes beaucoup plus expérimentales, peu narratives ou de manière des narrations beaucoup plus elliptiques qui me permettent de saisir d'autres choses de manière différente.
Je crois que votre travail cinématographique résonne avec votre travail de plasticien, Clément Cogitor, et je crois savoir aussi que vous aimez le travail de Christian Boltanski. Je vous propose de l'écouter. Il va parler de l'artiste et du spectateur. Hommage à Christian Boltanski, hélas disparu l'été dernier. C'était le 6 novembre 2019.
On ne travaille que sur soi. C'est la seule chose qu'on connaît. On ne travaille que sur ses sentiments. Et en même temps, si on est un artiste, chacun qui voit ce travail pense qu'il n'a été fait que pour lui et se reconnaît. Et je pense que c'est même une des beautés de l'art, c'est qu'en même temps, c'est son histoire, mais ça devient l'histoire collective de chacun. Pour avoir montré que j'ai lu beaucoup de livres, si on peut lire Proust aujourd'hui, c'est parce qu'il ne parle pas de lui, mais qu'il parle de chacun de nous. Et je pense que la grande beauté de l'art, c'est du plus individuel au plus collectif.
Nous venons d'entendre la voix de Christian Boltanski, et c'est toujours émouvant d'entendre cet immense artiste essayer de transmettre ce qu'il fait. Êtes-vous d'accord avec cette définition ? On ne parle que de soi quand on est artiste, Clément Cogitor.
Oui, je trouve ça très très juste ce qu'il dit. Et j'aime énormément dès que je l'entends parler, cette manière d'arriver à raconter très simplement des choses très complexes. Ce qui n'est pas du tout la même chose que simplifier les choses, mais il arrive à nommer simplement des choses complexes. Et moi, il fait partie des artistes qui m'ont donné envie de devenir artiste. C'est quelqu'un dont le travail a beaucoup compté pour moi.
Mais cette idée de se déshabiter soi-même pour pouvoir, en tant qu'artiste, être comme n'importe qui, vous y souscrivez?
Ah oui, complètement. Mais je pense que oui, notre matériau, notre matière première et notre fond de commerce en tant qu'artiste, c'est nous-mêmes, notre mémoire, nos névroses, nos désirs, nos peurs, et je dirais même plus que ça, tout ça dans l'enfance, et que...
Donc le territoire, c'est l'enfance.
En tout cas, ça y remonte, et ça, disons, c'est le réacteur de la centrale, quoi, voilà. Et autour de là, ça se construit, et en même temps, on ne parle que de soi, et comme le dit Christian Boltanski, il faut que chacun ait l'impression de se reconnaître dans ça. Et c'est une espèce de ce qu'il explique très bien, un mouvement entre l'individu et l'universel. C'est ce mouvement balancier où plus tout d'un coup un personnage tellement défini et tellement précis et tellement incarné que on se dit ça pourrait être nous, alors qu'en fait il a une identité qui est extrêmement à ce moment-là ciselée, c'est-à-dire qu'il a une existence extrêmement une présence extrêmement vivante sur scène, dans un livre ou sur un écran, mais tout d'un coup on a l'impression qu'il est fait de chair, et on s'y retrouve, on se reconnaît en lui, et ça c'est là où se crée ce lien très étrange entre nous artistes et le spectateur. On a l'impression d'avoir donné naissance à une sorte de chimère, le personnage, voilà.
Christian Boltanski disait que tout était intéressant et pouvait donner lieu à matière à art. Or, je sais, Clément Cogitor, que dans une de vos expositions, vous avez décidé de vous livrer à une expérience singulière, c'est-à-dire que vous avez accroché une caméra au cul d'un camion. Qu'est-ce que ça a filmé et qu'est-ce que ça dit de nous, ça ?
Alors, c'était pas une caméra, c'était un projecteur 16 mm que j'avais embarqué dans une voiture, et on avait saisi l'arrière d'un camion qui roulait comme un écran de cinéma. Et j'avais filmé le défilement de la route la journée. Et puis on était revenu sur cette même route la nuit et on avait projeté, c'était ma toute première vidéo, j'étais encore étudiant. quand j'ai fait cette vidéo qu'on peut voir en ce moment dans l'exposition qui est présente au 104 en ce moment, qui s'appelle Project Room, où je rassemble 5 vidéos, mais il y a cette vidéo là qui s'appelle Traveling. Mais voilà, c'est une sorte de surgissement d'une image vacillante et fragile et éphémère sur l'arrière d'un camion qu'on suit comme un écran de cinéma, et qui pour moi une sorte de, qui était à l'époque, puisque c'était il y a, je sais pas, 15-20 ans que j'ai fait ça, qui était une sorte de déclaration d'amour aux forces du cinéma, quoi.
Mais on peut dire que vous continuez 20 ans après à déclarer votre amour au cinéma avec Goutte d'Or. Vous avez dit tout à l'heure, en tout début d'émission, que le personnage principal était voyant. On en rencontre dans ce quartier, mais pas seulement dans ce quartier, partout. Des professeurs de consolation qui, soi-disant, vous donnent des cartes pour accéder au bonheur, ne plus souffrir, ne plus être malade, parvenir au paradis, etc. Et vous ne montrez jamais, à l'intérieur de ce film, Clément Cogitor, la manière dont il fait pour que l'autre, que ça soit un garçon, une fille, une vieille personne, une jeune personne, croit en lui. J'ai l'impression que le territoire de votre cinématographie, et ce depuis les débuts, c'est la croyance. Qu'est-ce qui se passe dans le cabinet du consolateur? Pourquoi ça marche?
Ça marche parce que, en tout cas chez ce personnage-là, qui s'appelle Ramsès dans le film, parce qu'il sait comment attraper aujourd'hui...
Comme par hasard, hein, Ramsès, c'est pas indifférent comme nom.
Il sait attraper des informations que les personnes ont l'impression d'avoir jamais dites à personne, et il sait comment les avoir. Alors, je vais pas trop dévoiler ces trucs, mais disons, il y a tout un petit système. Et ensuite, il sait doser des choses qui sont des détails extrêmement précis de la vie de ces gens, mêlés à des choses beaucoup plus générales, provenant de différentes croyances, et qui produisent à la fois de la croyance et de la consolation. Et dans cet équilibre-là, la personne qui vient, qui est en deuil, en souffrance, et en manque d'une écoute, en manque d'une personne disparue, tout d'un coup se rattache à ce qu'elle entend comme une bouée de sauvetage, et tout d'un coup on rentre dans ce, voilà, qu'est-ce que c'est que la fiction consolatrice, voilà, est-ce que la fiction peut sauver, consoler, qui, moi, quelque chose que je crois absolument pas, je crois que c'est pas du tout son rôle, je crois que la fiction, le récit peut...
Mais vous croyez à la consolation?
Je crois que la consolation est une dimension très importante de l'expérience humaine, mais je crois pas...
Quasi-religieuse.
Ouais, mais je crois pas que la fiction, ça sert à ça. Je pense que ça, c'est une utilisation pervertie du récit pour ça, mais je pense que la consolation est une chose absolument nécessaire, mais que les histoires qu'on écrit et les vies des personnages qu'on déploie ne servent pas ni à consoler, ni à sauver aucun personnage, ni aucun de nous-mêmes, mais qu'elles sont simplement une manière de les accompagner. Et que déjà, ça, c'est beaucoup. Et c'est un petit peu ce que va faire l'expérience du personnage de Goutte d'Or, à quoi ça sert, ce récit-là, comment est-ce qu'on met des mots sur le deuil, sur l'absence, comment est-ce qu'on cohabite avec ce vertige de la violence et de la mort, et à quoi sert son métier, et comment le don qu'il a pour le langage et pour l'accompagnement peut trouver une place différente, ou en tout cas comment il peut revisiter son don, parce qu'il y en a un, sauf que la manière qu'il a de l'utiliser et la manière qu'il a de construire ses rapports avec les gens qui sont perdus dans un gouffre de détresse et qui par la croyance essaye d'en sortir, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le rapport qu'il a installé, et petit à petit va dans l'effondrement de ce système-là, il va trouver d'autres manières de le reconstruire.
Cet homme sait des choses que les autres ne savent pas, cet homme voit des choses que les autres ne pourront jamais voir, cet homme a un don étrange pour la mort, mais on va pas tout raconter de ce film bouleversant, car il y a aussi un détraquement du monde que vous nous montrez, Clément Cogitor. Et ça, ce détraquement du monde, c'est l'enfance saccagée, l'enfance humiliée, l'enfance abandonnée, tous ces jeunes enfants qui ont franchi la Méditerranée au péril de leur propre vie, qui se retrouvent comme des loups affamés du Moyen-Âge à l'intérieur de Paris.
Oui, alors c'est, Il y a dans Goutte d'or un groupe d'enfants qui devient petit à petit deuxième personnage du film, et duquel petit à petit émergent deux personnalités dans ce groupe d'enfants, de jeunes adolescents, et qui sont rentrés dans le scénario de manière assez naturelle au moment où j'ai commencé à écrire autour de ce personnage-là. Et c'était on était, je crois, à l'été 2016, année 2016-17, et sont arrivés dans la Goutte d'Or des bandes de jeunes enfants qui vivaient déjà dans la rue à Tanger, qui ont embarqué sous des camions, qui ont réussi à monter dans des trains, traverser toute l'Espagne, et sont arrivés jusqu'à Paris. Et tout le quartier, c'est-à-dire autant le commissariat que les gangs en place, que les associations, que les éducateurs, était sidéré par la présence de gamins vraiment livrés à eux-mêmes, quoi. On était face à des enfants des rues, quoi. Peu de choses. Enfin, ils étaient pas aussi jeunes que c'était des enfants un peu âgés ou des adolescents jeunes, mais c'était sidérant, et personne ne savait comment créer un lien, ou comment construire quelque chose, ou comment les préserver. Donc ça a donné lieu à des scènes parfois très, très violentes, et petit à petit, voilà, le film étant aussi très nourri d'événements ou de situations du quartier lui-même, de ce que j'ai pu voir, entendre. Et voilà, ils sont rentrés dans le scénario un peu comme ils sont rentrés dans le quartier, c'est-à-dire par effraction, quoi.
Et dans ce gigantesque forum qu'est Cannes, avec tous ces écrans allumés partout, vous y croyez, vous, à l'avenir du cinéma par rapport justement à la concurrence des plateformes, à la segmentation des marchés, par rapport à la multiplication des opérateurs d'image?
Oui, j'y crois. Enfin, je crois que ce qui fait la joie et la force de mon métier, qui est le cinéma, trouvera une manière d'exister, de se produire, de se financer. Alors, pas de la même manière. Ce sera, enfin, tout évidemment est en train de changer, mais je crois que les cartes vont se redistribuer différemment, mais je pense que ce qui m'intéresse dans le cinéma va exister d'une manière ou d'une autre, autrement.
Merci beaucoup Clément Cogitor, et bonne chance pour ce film présenté à Cannes qui s'intitule donc Goutte d'or. Nous allons nous quitter en écoutant Stéphane Escher.
C'est pas moi. ton cou, c'est comme une vipère qui sort de son trou, ses luttes, ses galères, c'est tous ses écrous, c'est pas moi qui sais.
Merci à toutes et à tous. Merci encore Clément Cogitor. Donc ce film s'intitule Goutte d'or et nous attendons qu'il sorte dans toutes les salles. L'heure bleue, merci à Martin Troadec qui est à la régie technique ce soir. Merci à Marie-Clément, Céline Villegas et Elodie Royer. Merci bien sûr à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux, à Lilian Alôme qui comme chaque soir a réalisé cette émission. Et après le prochain journal d'information, pas de Mishka, mais un concert triple affiche avec IBI, Bertrand Belin et November Ultra en direct du Studio 104, présenté par Laurent Goumard.